Radio Prague, les informations. Bonjour, la Chambre des députés a adopté le projet de loi devant permettre sa dissolution avant les élections législatives anticipées. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et du groupe de Rio ont adopté à Prague une déclaration commune sur la grippe porcine. Et enfin, la production de voitures particulières a baissé de près de 25% au cours du premier trimestre en République tchèque. On commence donc avec de la politique. La Chambre des députés a adopté ce mercredi le projet de loi constitutionnelle devant permettre sa dissolution dans sa composition actuelle à la mi-octobre, parallèlement à la tenue des élections législatives anticipées. Celles-ci devraient être organisées les 9 et 10 octobre au plus tard. La loi doit encore être adoptée par le Sénat avant de pouvoir être appliquée. Le président de la République ne dispose lui d'aucun pouvoir de veto. Ce projet a été présenté par 3 des 5 partis représentés à la Chambre basse du Parlement, suite au vote de défiance qui a entraîné en mars dernier la chute de la coalition gouvernementale dirigée par Mirek Topolánek. La rencontre entre les représentants du groupe de Rio et de l'Union européenne, entamée lundi, se poursuivait ce mercredi à Prague avec la réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 et des 23 pays d'Amérique latine et des Caraïbes. La grippe dite porcine, apparue au Mexique, qui préside actuellement le groupe de Rio, constituait le thème central de cette réunion. À l'issue de celle-ci, une déclaration commune a été adoptée en fin de journée, dans laquelle les pays membres de l'Union européenne et du groupe de Rio se sont entendus pour lutter contre la diffusion du virus et ses conséquences sociales et économiques. Économie. La production de voitures particulières en République tchèque a baissé de 23% au cours du premier trimestre de cette année par rapport à la même période en 2008. Au total, un peu plus de 205 000 voitures sont sorties des usines des constructeurs automobiles installés en République tchèque. Ces chiffres ont été communiqués mercredi par la Fédération de l'industrie automobile. La baisse la plus importante a été enregistrée par Škoda Auto, filiale du groupe Volkswagen, qui a produit 98 000 véhicules, soit 82 000 de moins qu'au cours des 3 premiers mois de l'année 2008. En football, le président de la Fédération tchèque, Pavel Mokry, a officiellement confirmé ce mercredi la nomination de František Straka au poste de sélectionneur de l'équipe nationale. L'ancien international et entraîneur, entre autres du Sparta de Prague, va signer un contrat à durée indéterminée dans lequel figurera une clause permettant à la fédération de le résilier unilatéralement. En juin prochain se tiendra en effet l'élection du nouveau président de la fédération. František Straka sera donc chargé du match amical contre Malte en juin prochain, mais n'est pas certain de conduire l'équipe nationale lors des 4 derniers matchs de qualification à la Coupe du Monde à l'automne. On termine avec un mot de météo. Malgré quelques franges éclaircies, c'est un temps dans l'ensemble nuageux qui règne sur une grande partie du territoire. Ce jeudi, les températures maximales tournent autour de 20 degrés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Eh bien, c'était donc Guillaume et les dernières informations. Place maintenant à l'habituel magazine d'actualité tchèque, avec pour commencer la très bonne prestation du nouveau Premier ministre tchèque au siège de la Commission européenne à Bruxelles. Ensuite, ce sera Lena Gebertová et la campagne pour les élections au Parlement européen. Václav Richter nous présentera une nouvelle production de l'opéra d'Antonín Dvořák, Rusalka Londýně. Pour finir, un petit avant-goût du magazine culturel dominical. Une femme de lettres française s'exprime sur la Tchéquie, cela avec Anna Kubišta. Nous souhaitons sincèrement à toutes et à tous une agréable réception. Jan Fischer, chef du cabinet qui conduira la Tchéquie à des législatives anticipées en octobre prochain, a enfreint la tradition. Président tchèque du Conseil de l'Union européenne oblige, son premier voyage à l'étranger l'a conduit à Bruxelles et non pas à Bratislava. De cette première apparition de l'ancien directeur du Bureau des statistiques sur la scène européenne, on ne peut retenir, selon certains médias, qu'une bonne impression. Il y a immédiatement exprimé le principal objectif de son gouvernement. Lors de ses rencontres avec le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, ou avec Javier Solana, le haut responsable de la politique étrangère européenne, Jan Fischer a insisté sur le succès de la fin de la présidence tchèque, qui est la priorité absolue de son cabinet. Face aux journalistes, le Premier ministre tchèque a surtout été confronté à deux questions, la ratification du traité de Lisbonne et la participation du président de la République, Václav Klaus, au sommet de l'Union européenne, qui aura lieu sous la présidence tchèque au mois de juin. À propos de la signature du chef de l'État sous le traité de Lisbonne, adopté par le Parlement tchèque, Jan Fischer a déclaré.
Maintenant, tout dépend du président de la République, de quand il apposera sa signature sous le traité de Lisbonne. Cela est son affaire, mais mon désir personnel serait que le processus de ratification se déroule avec succès jusqu'à sa phase finale en République tchèque.
Václav Klaus attend pour l'instant le verdict de la Cour constitutionnelle sur un recours qu'un groupe de sénateurs compte présenter dans les deux mois à venir. En ce qui concerne la participation du président de la République Václav Klaus, considéré comme un eurosceptique, au sommet de l'Union européenne, Jan Fischer a été clair. Cette question va naturellement être discutée, mais l'usage veut que le sommet soit conduit par le chef du pouvoir exécutif et que son mandat soit élaboré par le gouvernement. Václav Klaus a déjà laissé entendre qu'il désirait participer à ce sommet. D'après Jan Fischer, les modalités de cette participation seront déterminées sous peu. Le Premier ministre tchèque a créé quelques agréables petites surprises. Tout d'abord, il a prouvé qu'à la différence de certains de ses prédécesseurs, il maîtrisait couramment l'anglais. Il s'est déclaré euro-réaliste et a aussi exprimé le soutien de la Tchéquie à la nouvelle candidature éventuelle de José Barroso à la présidence de la Commission européenne après les élections au Parlement européen de juin. Pour ce qui est de l'adoption de l'euro pour la Tchéquie, Jan Fischer a indiqué que ce ne sera pas du ressort de son cabinet, mais que la question sera quand même sérieusement discutée. À propos de son appartenance au Parti communiste de Tchécoslovaquie dans le passé, Jan Fischer a déclaré la regretter en s'efforçant de faire avec depuis une vingtaine d'années. De la vie générale à Bruxelles, un bon changement à la présidence de l'Union européenne, symbolisé aussi par le démontage de l'entrepât, une œuvre d'un artiste tchèque qui présentait l'Europe d'une manière très controversée. Des spots télévisés, c'est l'un des rares moyens pour persuader les Tchèques de se rendre aux urnes les 5 et 6 juin et de faire ainsi en sorte que le taux de participation soit plus élevé qu'en 2004, où il s'était situé autour de 30%. Alena Gebertova.
Si la campagne gouvernementale officielle est plutôt modeste, voire inexistante, les différents partis politiques s'activent en revanche pour attirer les électeurs. L'enjeu est grand, car près de 4 mois avant la tenue des élections législatives anticipées, les élections européennes seront pour eux l'occasion de tester leur position et leur force. Pas de trêve donc pour les deux principaux acteurs sur la scène politique, le Parti civique démocrate à droite et la social-démocratie à gauche, qui affirment ouvertement que leur campagne sera négative. Elle est effectivement beaucoup plus basée sur le dénigrement de l'adversaire que sur l'approche des thèmes européens. L'Europe ou la Tchéquie, je m'en fiche éperdument, peut-on lire sur l'un des nombreux billboards situés sur le bord des grandes routes avec lesquelles l'ODS cherche à ridiculiser le chef de file du Parti social-démocrate, Jiří Paroubek. Ce dernier a pour sa part dressé le slogan « Plus jamais le retour de l'ODS ». Les attaques mutuelles, tantôt vulgaires, tantôt amusantes, vont bon train aussi sur le web. D'un autre côté, la carte de la négation n'est pas jouée par les petits partis. Le Parti démocrate européen, par exemple, a ouvert sa campagne avec un happening, ayant pour protagoniste la figurine d'un petit Václav peureux, une allusion on ne peut plus claire au président eurosceptique Václav Klaus. Un air de fête devrait régner pendant toute la campagne de ce parti très pro-européen, qui est d'ailleurs soutenu par l'ex-président Václav Havel.
Une nouvelle production de Rusalka Londine, chef-d'œuvre lyrique d'Antonín Dvořák, figure à partir de ce mercredi au programme du Théâtre National de Prague. L'opéra, sur une fée des eaux qui devient infâme mortelle et se sacrifie pour l'amour d'un homme, est sans doute l'un des sommets de l'art lyrique tchèque. Cette nouvelle production très attendue est l'œuvre commune du metteur en scène Jiří Hajman, directeur artistique de l'Opéra du Théâtre National, et du chef d'orchestre Jakub Hruša, Václav Richter.
Antonín Dvořák et son librettiste Jaroslav Kvapil seraient étonnés et probablement scandalisés par les productions de cet opéra qui se multiplient ces dernières années dans le monde. Les metteurs en scène modernes s'obstinent à supprimer dans cet opéra tout élément magique et souvent réduisent l'affaire Rusalka au niveau d'une prostituée. Ce n'est pas le cas de la dernière production du Théâtre National, bien que le metteur en scène Jiří Hejzman ne conçoive pas non plus cet opéra comme un conte de fées classique. Rusalka est pour lui, le drame d'un être qui prend le chemin de la connaissance, un chemin sans retour.
Deux mondes entrent en conflit dans l'opéra Rusalka, le monde des êtres surnaturels et le monde des hommes. Le monde des êtres surnaturels, dont Rusalka et Londin font partie, est pour moi le monde des âmes ayant appartenu à des êtres disparus ou de celles qui tendent vers une nouvelle naissance. Le monde des hommes est régi par les règles dans lesquelles un être pur ne s'oriente qu'avec difficulté et finit par être rejeté par la société.
Rusalka est jouée au Théâtre National depuis un siècle. L'interprétation actuelle de cet opéra est donc le résultat d'un long processus auquel a participé toute une pléiade de chefs d'orchestre ayant dirigé cet opéra dans le passé. Le jeune chef Jakub Hrucha refuse cependant d'obéir uniquement aux traditions et aimerait jeter une nouvelle lumière sur la partition vénérable.
Můj záměr je odkryt veškerou krásu partitury v nejlepším možném světle.
Mon intention est de révéler toutes les beautés de la partition et de les montrer sous le meilleur jour, ce qui n'est pas toujours facile dans ce célèbre théâtre. C'est une tâche à deux niveaux. Il s'agit d'abord de faire passer la musique de cette partition aux oreilles des spectateurs. D'autre part, ce théâtre a une longue tradition qui est en partie utilisable, mais qui est aussi un élément faisant obstacle à tout ce qui est nouveau.
Parmi les chanteurs engagés pour cette production, on trouve Aleš Bryscén, un des meilleurs ténors tchèques de l'actualité dans le rôle du prince, et aussi la mezzo-soprano Dagmar Peckova qui comble le double rôle de la sorcière et de la princesse étrangère. Rusalka, elle, est incarnée par la soprano Dana Burešová.
Rusalka obecně je mi rolí velmi blízkou, mám ji ráda, ale...
Rusalka est un rôle qui m'est très proche, mais je le sens différemment. Pour moi, c'est toujours un conte de fées et je suis donc toujours à la recherche d'un chemin qui n'est pas féerique, qui permet une interprétation plus générale, comme si c'était une histoire que chacun pourrait vivre. J'apprends, je cherche le chemin et c'est un chemin très intéressant car je découvre les choses que je n'ai jamais connues.
Quoi qu'il en soit, Rusalka reste malgré tout un opéra magique, tout simplement grâce à la magie de la musique dont le charme séduit un siècle après sa création jusqu'aux adversaires endurcis des contes de fées.
Françoise Henri est écrivain et vient de publier au printemps chez Grasset, juste avant l'hiver, un roman qu'elle a situé à Prague en 1969. Alors que le pays sombre dans la normalisation, un tragique huis clos se déroule dans un café pragois. Ivana en est la patronne, assez âgée. Elle observe avec une envie les amours clandestines de sa serveuse jeune et pleine de vie, Anna, avec un de ses clients, Pavel, un jeune étudiant dissident. Au cœur de ce café pragois se joue... en condensé, le destin historique d'un pays à travers les destins individuels de quelques personnages du récit. Anna Kubichta s'est entretenue avec Françoise Henri.
Alors, il est né il y a très longtemps, c'est-à-dire que ça fait très très longtemps que j'étais sur ce projet, puisqu'une première version date de 1991. Et en fait, Ce livre est né avec le personnage de la serveuse slovaque Anna, qui a été, en fait, on a eu, ma sœur et moi, une personne qui s'est occupée de nous, qu'on appellerait babysitter aujourd'hui, on l'appelait Nounou, qui était tchèque, qui venait nous garder quand on était petite. Et toute mon enfance a été baignée d'objets qu'elle me ramenait de là-bas, de poupées, de tabliers brodés, de choses comme ça. Et cette personne que j'ai assez peu connue, puisque quand j'ai quitté Paris, j'avais 6 ans, c'était quand j'étais encore à Paris, et je ne l'ai retrouvée que plus tard à Paris, alors qu'elle allait bientôt mourir. Mais bien sûr, le personnage principal, c'était elle. Mais souvent, quand on écrit, c'est un autre personnage qui prend la place, qui prend la voix, comme la serveuse du café, la patronne du café. Et d'autre part, mes parents étaient en août 68 à Prague, dans un congrès de géologie, et ils ont vécu une intervention des chars russes en direct, et donc ça m'a beaucoup marqué parce qu'ils sont revenus, ils nous ont raconté, etc. Et puis un voyage en mai 89 avec mon mari, où j'ai découvert en fait un pays sous régime communiste. Et ça a été comme, je sais pas, l'entrée dans un autre monde. Ça a été une impression extrêmement qui est toujours aussi forte en moi aujourd'hui, qui a déclenché, en fait, puisque la première version après date de 91, l'écriture de ce livre.
Alors, c'est intéressant parce que vous dites que finalement, ce livre est né d'une longue gestation. Pourquoi avoir attendu, en fait, tout ce temps-là? C'était, vous avez attendu le moment opportun ou?
Oui, c'est-à-dire quand j'ai demandé une mission Stendhal en avril 2000, j'ai découvert un autre Prague absolument différent, incroyablement différent. Ça a accentué mon désir de parler du Prague d'avant, de la ville telle que je l'avais vue encore sous le régime communiste. Et donc j'ai écrit cette première version, mais comme très souvent, alors ça c'est plutôt une question d'écriture maintenant, puisque l'histoire était là, c'est une question de, vous savez, de, comment on appelle ça, le point de vue. C'est-à-dire, de plus en plus, quand j'écris, il faut que j'attende que les choses viennent sous une certaine voie, avec une certaine voix. Et en l'occurrence, ça a été la voix de cette patronne de café, qui n'était pas du tout un personnage principal dans les différentes précédentes versions, qui s'est mise à parler. Et quand cette femme, quand cette voix a été là, j'ai su que ce serait par elle que passerait le livre et que par elle que passerait l'histoire. Par cette femme brisée par une expérience qui lui était arrivée en 48, donc 20 ans auparavant, avant le début du livre. Cette expérience, elle aussi, d'avoir eu un amour brisé par ce régime, et que du coup c'est par cette voie-là, par cette voie venue de loin, par cette voie de nostalgie et d'envie et en même temps de souffrance, que passerait l'écriture de cette histoire, de l'écriture d'Anna, la jeune serveuse.
Vous pourrez retrouver le reste de cet entretien dans la rubrique culturelle du dimanche. Et nous abandonnerons maintenant le présent sur Radio Prague pour nous plonger dans le passé avec la rubrique historique habituelle du mercredi.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à tous les fidèles à l'écoute. 64 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale que nous venons de commémorer, l'Institut d'études des régimes totalitaires a dévoilé de nouveaux faits relatifs au nombre de membres de la Gestapo sur le territoire de l'ancien protectorat de Bohême-Moravie et aux massacres commis pendant les derniers jours de la guerre contre la population civile.
C'est une dette que nous prenons très au sérieux et que nous chercherons à payer.
Explique le directeur de l'Institut, Pavel Žaček, à la question de savoir pourquoi les dites pages blanches dans la connaissance des événements survenus en mai 1945 sont remplies si tard. Bien que la police communiste secrète, la STB, dont les archives sont maintenant étudiées par l'Institut d'études des régimes totalitaires, ait mené jusqu'aux années 1970 l'enquête sur les crimes commis, les historiens avouent ignorer toujours le nombre de victimes que la guerre a faites pendant les derniers jours de la guerre. Selon les plus récentes études, 1700 personnes sont mortes à Prague et jusqu'à 8000 dans ses environs. Le 5 mai 1945, le soulèvement éclate dans la capitale tchèque. Les combattants sur les barricades défendent leur ville face à la puissante suprématie des troupes allemandes du centre du général Schörner.
Nous appelons la police, les gendarmes, les soldats à venir immédiatement à la radio tchécoslovaque. Venez en aide aux insurgés, les Tchèques y sont massacrés. Venez immédiatement à notre aide. Nous appelons tous les Tchèques.
Le premier jour du soulèvement pragois, 80 civils tchèques sont entraînés dans les casernes SA, ayant leur siège dans l'actuel lycée à Prajačce, dans le 3e arrondissement de Prague. Ils sont brutalement torturés avant d'être tués. Les recherches effectuées dans les archives ont démontré, d'après Pavel Žaček, que ce massacre a été commis par un groupe de jeunes nazis fanatiques, membres de la 5e division SA, Feldherrn Halle. Au nom de Hitler, qui n'était plus en vie, se donnant la mort le 30 avril dans son bunker de Berlin, ces jeunes fanatiques nazis ont fait des centaines de victimes civiles lors du soulèvement pragois. Certains corps ont été brûlés, d'autres jetés dans la rivière Vltava. Deux autres localités où des crimes de guerre ont été commis se trouvent dans la banlieue ouest de Prague. Le 7 mai 1945, la commune de Lahovice, au confluent de la Vltava et de la Beronka, a été ravagée par le groupe de combat SS Wallenstein. Et le 8 mai, 21 civils ont été tués près du quartier de Barrandov. Plus au sud-ouest, vers la région de Příbram, l'unité SS commandée par Günther Balnow a exécuté 7 hommes dans la commune de Živorošť. Cela s'est passé un jour avant la fin de la guerre, le 7 mai 1945. Pour Pavel Žaček, le comble de la barbarie nazie, commis le même jour à Prague, fut l'assassinat insidieux, par derrière, d'un parlementaire brandissant un drapeau blanc en signe d'armistice. Pourtant, les massacres commis au cours des derniers jours de la guerre sont restés impunis. Il en a été de même pour la majorité des crimes commis entre 1939 et 1945 sur notre territoire. La lenteur des autorités tchécoslovaques, qui n'ont commencé à enquêter sur ces crimes que dans les années 70, est selon Žaček l'une des causes pour laquelle leurs auteurs n'en ont jamais été rendus coupables. Le régime communiste qui minimisait l'importance du soulèvement pragois en accentuant le rôle de l'armée rouge dans la libération a lui-même tardé à rouvrir plus tôt ce dossier. Dans certains cas, les autorités allemandes ont refusé de livrer les auteurs de crimes de guerre avérés. Le plus connu est le cas du chef de la Gestapo pragoise, Ernst Gerke, qui a échappé à la peine de mort et vécu une retraite paisible jusqu'à sa mort en 1982 près de Bielefeld en Allemagne. Après 1990, l'enquête sur les crimes de guerre s'est heurtée, selon Pavel Žaček, aux obstacles posés par certains dirigeants slovaques. Parmi eux, l'ancien premier ministre chrétien-démocrate Jan Černogurski, dont le père, qui appartenait aux membres du Parti populaire fascisant de l'INKA, avait contribué à l'éclatement de la Tchécoslovaquie en 1939. Une nouveauté a fait son apparition sur le site internet de l'Institut d'études des régimes totalitaires, la liste des membres de la Gestapo qui ont déployé pendant la guerre leurs activités sur le territoire du protectorat de Bohême-Moravie. L'historien Lukáš Vlček est spécialiste de cette période.
Tyto karty vznikaly v zásadě těsně po válce.
Les cartes personnelles des membres de la Gestapo ont été établies immédiatement dans l'après-guerre par les autorités tchécoslovaques dans le but d'obtenir une liste complète des personnes employées dans les services de sécurité allemands.
La liste des membres de la Gestapo publiée pour la première fois, 64 ans après la guerre, comprend 5861 noms. Parallèlement à ces noms, les historiens nous familiarisent avec la structure de la police secrète allemande directement subordonnée à la police nazie SS qui mettait en œuvre la politique d'extermination du Troisième Reich. Parmi les chefs de la Gestapo, on compte Reinhard Heydrich, tristement connu des Tchèques, protecteur de Bohême-Moravie, responsable de la mort des milliers de Tchèques. Dans la liste des membres de la Gestapo, on peut trouver également le nom d'Anton Malot, ancien gardien dans le camp de Térézine, retrouvé grâce au chasseur de nazis tchèques, le reporter Stanislav Motl.
Nous sommes arrivés à la fin de notre menu d'aujourd'hui et Radio Prague vous invite chaleureusement à suivre l'une de ses prochaines émissions sur les ondes, le satellite ou le web.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.